de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Je suis en compagnie d'Yves Gourina et aussi de la musique de film, puisqu'on va aborder ce sujet. Nous allons entendre une musique célèbre, extrait du film Un été 42.
Cette musique, elle est tout à fait extraordinaire. Il y a une émotion, il y a de l'amour, de l'interrogation. Et puis, ce film, quand on y pense, été 42. La situation en 1942, quand on y pense, vous vous rendez compte dans quelle situation on était? C'était vraiment le milieu de la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas sûr qu'on voyait le bout du tunnel. Eh bien, il y a cette musique-là qui, quelque part, évoque la possibilité, sans faire de comparaison déplacée, un petit peu comme la Grande Vadrouille. Vous savez, quand on y pense à Grande Vadrouille, on croit, puisqu'on parle de cinéma, et donc Grande Vadrouille, il y a de la musique d'ailleurs, au passage, hein, il y a De Funès qui dirige La Damnation de Faust. Ça se passait dans Paris occupé, ça aurait pu être une tragédie extraordinaire, mais il y a une perspective d'évasion et d'ouverture. Et bien moi, je crois que la puissance de l'art, mais de la musique en particulier, c'est cette perspective d'évasion. On devrait dire plutôt que la Grande Vadrouille, la Grande Évasion, en fin de compte, ça existe aussi d'ailleurs comme film. Et donc, si vous voulez, dans cet été 42, je crois qu'il y a ça. Il y a à la fois le poids de l'histoire et le sens de l'histoire. Mais le sens de l'histoire, parce que 44 et 45 sont en train d'arriver, on ne le sait pas encore, mais si, la musique nous le dit.
Vous parlez de film, donc la musique a-t-elle une relation entre le mouvement de l'image, le mouvement des personnages ou du décor avec la musique, ou alors l'inversement?
Votre question est passionnante. Votre question est passionnante parce que la musique, la mélodie, par définition, c'est du mouvement. Mais vous savez, dans une société du visuel, effectivement, on ne voit le mouvement que par l'image. Alors, fermez les yeux un petit peu et écoutez de la musique, les yeux fermés. Vous pourrez imaginer, d'ailleurs dans le mot imaginer, il y a image au passage, vous pourrez imaginer voir des choses. Voyez ce que je veux dire? Alors maintenant, parlons franchement. Vous savez qu'il y a des personnes non-voyantes qui vont au cinéma et qui, par les autres sens, l'audition, mais aussi, je pense, la communion avec les gens qui sont autour, parce qu'on sent les émotions, vous savez, qui se propagent, et donc restitue quelque chose qui n'est pas dans l'image, qui est justement tout ce que l'image qui est derrière le miroir, qui est derrière l'écran. Donc c'est finalement exactement l'inverse de nos jeux vidéo. On est malheureusement baigné dans nos jeux vidéo où il y a une image et il n'y a rien d'autre qu'une image. La vie, il n'y a pas qu'une image dans la vie. L'image est faite pour la vie et pas la vie faite pour l'image, si vous voulez. C'est-à-dire que la musique dans le film nous aide à comprendre que derrière l'image, il y a autre chose. Il y a de l'émotion, il y a des rencontres.
Effectivement, la mélodie peut accompagner le fait qu'on peut, par exemple, dans l'image, on peut voir beaucoup plus de choses, on peut avoir plusieurs émotions. Donc il y a plusieurs leitmotifs, motifs ou plans sonores.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites là aussi, parce que quand on a un musicien génial associé à un cinéaste génial, on arrive à des choses tout à fait extraordinaires. Par exemple, si je vous évoque un harmonica avec une certaine mélodie de Ennio Morricone, il suffit d'entendre 10 secondes de cet harmonica et ça y est, on voit Clint Eastwood, on voit le désert, on voit des cow-boys. C'est quand même, et on n'a même pas besoin d'ouvrir les yeux, on les voit. Donc il y a une puissance d'évocation de la musique qui est absolument extraordinaire.
Thank you.
d'autres exemples. Par exemple, dans 2001 Space Odyssey, quand je me souviens, je l'ai vu, j'avais 8 ans. Vous vous rendez compte ? Bon, j'ai été très frappé par le Zarathoustra de Strauss. J'ai été aussi frappé par la musique du Khatchaturian, très très dépouillée, très belle d'ailleurs, hein, du ballet Gaïane au violoncelle solo. Mais ce qui m'a le plus époustouflé, c'est le Beau Danube Bleu pendant la scène du Rendez-vous dans l'espace. Évidemment, en 68, un Rendez-vous dans l'espace, c'était encore quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. Le Beau Danube Bleu là-dedans, c'était extraordinaire. Alors il y a un très grand musicien, je crois que c'est Brahms, qui a dit que le regret de sa vie, c'était de ne pas avoir écrit le Beau Danube Bleu.
L'incarnation de la mélodie ou d'une atmosphère sonore pour décrire une image, comme vous dites effectivement le thème de l'harmonica, mais on peut avoir aussi l'effet inverse. Il y a des tableaux qui ont eu un impact sur les compositeurs.
Ah, mais
certains tableaux...
Mais complètement. Alors, mais ça, c'est vieux comme le monde. Hein. Vous prenez Moussorgski, par exemple. Hein, il a visité une exposition. Alors, mais permettez-moi de vous... Il n'y avait pas que les tableaux. C'était aussi un ami à lui. Je suis désolé de le dire, mais il faut qu'il y ait que la mayonnaise prenne. Et la mayonnaise, elle est avant tout humaine. Donc, c'était un ami à lui qui lui a présenté ses tableaux. Et effectivement, le père Moussorgski s'est baladé là-dedans. Et chacun de ces tableaux lui a inspiré des musiques, dont certaines d'ailleurs sont des chefs-d'œuvre extraordinaires, qui sont jouables à l'orgue, hein, au passage. Mais, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'entre chaque tableau, il a mis une petite ritournelle qui accompagne le personnage. Quand on entend cette ritournelle, on le voit, des bonheurs qui évoluent entre chaque tableau. Et chacun des tableaux, par exemple le marché de Limoges ou le ballet des poussins dans leur coquille, c'est des choses un petit peu exotiques, un peu russes quand même, hein, il faut dire les choses. La grande porte de Kiev, la cabane sur pattes de poule. C'est presque du Dali, quelque part. C'est curieux, le tableau lui a inspiré la musique, et maintenant, quand on entend la musique, Ravel s'en est emparé, parce qu'il faut quand même savoir que Moussorgski l'avait écrit pour le piano. Ravel l'a transcrit, et c'est devenu une nouvelle œuvre orchestrale qui devient, on peut presque dire, une symphonie.
L'image existe, mais la puissance de la musique, c'est quand même de faire le lien, notamment entre les tableaux, et quand même de le rendre vivant, et de rendre plus d'émotion. Donc il y a quand même un impact plus important.
Alors, c'est très très compliqué, parce que si vous voulez, c'est toute l'histoire de l'opéra, même, voire même de l'oratorio. Vous savez que Bach n'a pas écrit d'opéra, mais il a écrit des oratorios. Handel a écrit des oratorios et des opéras. Dans l'opéra, finalement, qu'est-ce qui se passe ? On a en réalité trois arts qui se mélangent. Vous avez le théâtre, le théâtre, vous avez la danse et vous avez la musique. Et finalement, les sens se juxtaposent pour transmettre une histoire, pour transmettre un message. Et finalement, Bach l'a fait dans... Vous prenez la passion selon... Saint Matthieu, par exemple, il y a des effets véritablement théâtraux. D'ailleurs, on peut rêver, si Bach avait écrit des opéras, quel auteur d'opéra il aurait été s'il avait voulu le faire. Il y avait un opéra à Leipzig, son fils l'emmenait à l'opéra, mais il n'a jamais voulu écrire d'opéra. C'est assez étonnant. Je prends l'exemple de la Passion selon Saint Matthieu, qui est un véritable cinéma sonore. Bon, bien sûr, il y a le texte de Matthieu qui raconte l'histoire de la Passion, qui est terrible. Et puis, il a utilisé la configuration de l'église Saint-Thomas à Leipzig, qui avait deux tribunes. Il a mis deux chœurs, et si j'osais, je dirais qu'il a fait de la stéréo, plus que de la stéréo. Il y a les deux chœurs qui se répondent, de droite à gauche, vous voyez, qui posent des questions et qui répondent. Et puis au milieu, il y a le chœur d'enfant qui répond, le grand choral « Olam Gottes Unschuldig » qui vient se rajouter par rapport à ses questions et ses réponses. Alors c'est un effet théâtral qui est tout à fait extraordinaire, qui est utilisé au théâtre entre le côté cour et le côté jardin. Et au milieu, il y a une action sur laquelle on veut attirer l'attention. Et Bach a fait du théâtre musical. Alors il y a de la musique, hein, parce que dire qu'il y a de la musique dans la Passion selon Saint Matthieu, excusez-moi, c'est un pléonasme. Mais en plus, il y a du théâtre. Je dirais même géométrique, en ce sens que vous avez le message principal qui est donné par le chœur central, et vous avez les interrogations et le début des réponses qui sont données par les deux chœurs latéraux. Donc il y a tout un cinéma, mais pas au sens cinématographique, mais au sens du mouvement. Vous avez raison.
Oui, en effet, donc on se sent dans une salle.
On se sent dans l'écran.
Ça va plus loin que ça, notamment des mélodies du cinéma qui incarnent même des personnages, peut-être oui. dans le professionnel, où effectivement,
oui,
quand
alors,
on
parlait
entend ça,
on
peut incarner quelqu'un.
Ennio Morricone, quand on entend la musique Chimay du professionnel, bon, d'abord on voit Belmondo, c'est évident. Et voyez, c'est extrêmement émouvant parce qu'effectivement, imaginons ce film vu par une personne malentendante. On pourrait imaginer par d'autres moyens de lui donner l'émotion de la musique que la personne ne peut pas entendre, mais on peut imaginer aussi une personne non-voyante qui regarde le film et qui, par la puissance de la musique et des dialogues, peut arriver à peut-être reconstituer ce que l'image donne. Oui, c'est le partage, effectivement.
Donc l'une ne peut pas vivre sans l'autre,
non.
Ou comment on peut faire ?
C'est assez amusant ce que vous dites, parce qu'à une époque, le cinéma était muet, comme vous le savez. Eh bien non, il n'était pas muet. Parce qu'à cette époque-là, derrière l'écran, il y avait un piano. Parfois un orgue même, dans certaines grandes salles, mais bon, il fallait quand même des salles importantes, on va dire un piano. Et il y avait, comme dans les saloons, un pianiste. Vous savez, dans les saloons, on le voit dans Lucky Luke, là, voilà. Il y a des fois, il y avait même un piano mécanique. Hein. Donc, mais dans les cinémas, vous aviez un pianiste qui improvisait derrière le film. Et donc, on avait une musique qui répondait à l'intrigue. Pour ne rien vous cacher, je me suis un petit peu frotté à ce genre d'exercice. C'est tout à fait passionnant parce que vous vivez le film. Et si vous êtes derrière l'écran, vous êtes véritablement dans le film. Mais physiquement, parce que vous voyez ce que je veux dire. Et je vais vous confier même quelque chose. Je crois savoir que Marcel Dupré s'y était risqué, vous savez, un des plus grands improvisateurs de l'histoire. Il s'y était risqué au Gaumont Palace, à Paris. Mais c'est un exercice qui n'est pas si facile. Imaginez que vous illustriez un Tom et Jerry. Pour illustrer la petite souris qui court, le petit chat, etc., c'est quand même compliqué par rapport à l'improvisation sur les psaumes ou sur les chorales luthériens. Donc il y a tout un travail. Et d'ailleurs, il y a même eu à une époque des orgues de cinéma Wurlitzer qui se sont développés, où vous aviez des registres tout à fait étonnants, sirènes de pompiers, galop du cheval, ou des bruitages, si vous voulez, qui sont là. Donc vous avez raison, la musique, même dans les films muets, faisait partie du cinéma.
Oui, donc c'est tout un travail de composer pour une musique où vraiment on doit trouver des motifs sonores
oui.
pour incarner un personnage ou un plan
incarner,
ou
oui.
une image ou une couleur.
Je crois que la seule façon pour que ça marche, c'est de se mettre dans le personnage et de s'émotionner. Je sais que le mot n'existe pas en français, mais on comprend ce que ça veut dire avec la personne.
Sinon, on peut faire effectivement appel à la musique classique pour
effectivement
faire des doublages dans le même mouvement.
Ah ben c'est ce que font certains cinéastes, il faut bien la choisir par contre. Hein. Ouais, par exemple, Boléro de Ravel, voilà, il apparaît dans plusieurs films. Je pense à un film de Lelouch, Les uns et les autres. Vous savez, les films de Lelouch, hein, quand il a traité, excusez-moi de parler de cinéma, mais pourquoi pas dans une émission sur la musique, quand il a traité Les Misérables aussi, c'était quelque chose, parce qu'il avait compris non seulement la lettre, mais aussi l'esprit des Misérables. Et ben, dans Les uns et les autres, c'est une fresque extraordinaire, moi qui personnellement m'a marqué dans ma vie. Hein. Je vous le dis honnêtement, ça a été un choc émotionnel violent qui m'a poussé, on peut le dire, dans ma carrière de physicien. C'est étonnant ce que je vous dis là, Les uns et les autres. Il y a au début et à la fin le Boléro de Ravel, et c'est tout à fait extraordinaire. Et il y a le mariage du cinéma, de la musique et de la danse.
Il y a, en parlant de danse, la sarabande de Handel.
Oui, alors effectivement, vous avez raison, dans la scène du duel, dans Barry Lyndon, il y a, c'est Kubrick qui a choisi cette... Alors, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de gay, mais c'est quelque chose qui est devenu extrêmement populaire. Et j'arrive pas à savoir, d'ailleurs, si c'est le film vraiment qui l'a rendu populaire, cette sarabande, ou si déjà, comme la passacaille de Handel, elle circulait déjà. Alors pourquoi ? Parce que quand on regarde, c'est un thème extrêmement accrocheur, extrêmement grave, extrêmement sérieux. Bah oui, pour illustrer un duel, effectivement, on rigole pas, quoi. Hein. Voilà, c'est pas le moment de chanter « Viens Poupoule hein. ». Ça fait partie de ces mélodies qui nous frappent, comme l'Adagio de Barber, effectivement.
Et donc, du coup, parfois, les mélodies incarnent une atmosphère, mais oui. Pas que seulement un mouvement ou une idée ou un personnage.
C'est plus profond que ça. C'est plus puissant que ça. C'est indéfinissable. Je crois qu'en fin de compte, c'est indéfinissable. Écoutez, c'est le sourire énigmatique de la Joconde. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Moi, j'ai toujours pas compris. Par contre, on ne peut que le constater. Et si j'osais, je dirais le vivre.
Merci beaucoup, Yves, pour cette émission sur la musique de film.
Merci, Blandine. À bientôt.
À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
C'était de Pierre et de Notes. Une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.